Bonjour. Connaissez-vous Saint-Irénée? De nom? Saint-Irénée. Ou Irénée de Lyon. Vous connaissez, alors, seuls les plus âgés d'entre nous ont pu le rencontrer. Parce qu'il est né en 127, je crois. En 130, pardon. Il est né en 130 et il est né dans ce qui serait maintenant la Turquie. Et c'était un chrétien, un disciple d'un certain Polycarpe, qui lui-même était un disciple de Jean, l'évangéliste Jean. On ne sait pas trop pourquoi, Irénée a quitté sa Turquie, on disait l'Asie à l'époque, son Asie natale, pour arriver jusqu'à Lyon. Et à Lyon, il est venu rejoindre la petite communauté chrétienne qui commençait à cette époque, avec un homme qui s'appelait Potin, qui était le fondateur du christianisme à Lyon, et Irénée donc a vécu à Lyon. Il a succédé à Potin en 177, pardon, et il a vécu à peu près jusqu'en 202, l'an 202. Irénée est célèbre pour les Lyonnais parce que les Lyonnais connaissent le quartier Saint-Irénée, mais il est aussi célèbre par ses écrits et par son attitude d'homme de paix. C'est un homme qui a voulu essayer de concilier des personnes qui étaient un peu fâchées entre elles, et notamment qui a demandé au pape de l'époque de bien vouloir tolérer que les chrétiens d'Orient ne célèbrent pas la Pâque le même jour que les chrétiens d'Occident. C'est un homme qui a fait aussi une grande réflexion théologique, et c'était sûrement quelqu'un de très très intelligent. Et dans cette réflexion théologique, il a voulu montrer que Jésus-Christ, ça rejoint un petit peu ce que nous a dit Philippe tout à l'heure, dans toutes les merveilles de la personnalité de Jésus-Christ, il y a le fait qu'il a voulu en lui est récapitulé toute l'histoire de l'humanité. Et il a eu une phrase qu'il faut comprendre dans le cadre de ce qu'il dit, mais qui malheureusement a été ensuite tirée de son contexte. Et cette phrase, je vous la lis. « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Je vous répète cette phrase. « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? C'est Jésus, oui. Mais même pour Jésus, la phrase est ambiguë, parce que Jésus n'est pas devenu Dieu, il l'a toujours été. Pour que l'homme soit élevé au rang jusqu'à Dieu.
Jésus lui-même a dit, après d'ailleurs, Dieu.
Ah, je ne pensais pas en parler, mais je vais être obligé. Je suis désolé, Annie. Annie m'a dit, tu ne fais pas d'excursus. Hein? Bon. Allez, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Simon Pierre, serviteurs et apôtres de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Et le verset qui va nous intéresser particulièrement, c'est cette phrase, « Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Je continue ma lecture. « En fuyant la corruption » qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, je vous rappelle, il nous a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, et à la fraternité, l'amour. Pour l'instant, nous arrêterons là la lecture de ce passage. On le reprendra pour la conclusion. Maintenant, vous, moi, nous sommes des hommes et des femmes. Mais nous sommes humains. Nous ne sommes pas Dieu. Déjà, le psaume 8 se posait la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Psaume 8, verset 3. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, la lune, les étoiles que tes mains ont disposées, je me dis, mais qu'est-ce qu'un homme pour que tu en prennes soin ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui ? On comprend la question du psalmiste. Quand on voit l'immensité du ciel et notre faiblesse, on se dit, mais comment peux-tu t'intéresser à nous, Seigneur ? Pourtant, c'est le psalmiste qui continue, pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu, dit le psalmiste. Nous sommes que des créatures. Tu l'as fait, a dit le psalmiste, tu l'as fait, tu l'as fabriqué. Nous sommes des créatures. Nous sommes mortels, nous sommes faibles, nous sommes limités à notre corps. Vous connaissez le projet de Dieu en Genèse. Il les fit à son image. Hommes et femmes, il les fit image de Dieu. Nous sommes une image. C'est beau, mais ce n'est qu'une image. Et déjà, un tout petit peu plus loin, en Genèse 3, la tentation du serpent. Vous vous rappelez ce que le serpent a dit à Ève ? Dieu a-t-il réellement dit ? Et un peu plus loin, Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. On n'a pas attendu Saint-Irénée pour faire miroiter que nous serons comme des dieux. Le serpent l'avait dit. Et pourtant, l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, que la colère de Dieu se manifeste du ciel. Et au verset 25, notamment sur ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ne pas confondre la créature et le Créateur. Donc je pense qu'il est bien clair, nous sommes actuellement des humains et pas des dieux. Alors pour faire plaisir à Bernard, je vais vous parler du psaume 8. Du psaume 82. Le psaume 82 pourrait nous dérouter un petit peu, d'autant plus qu'il est cité par Jésus. Nous allons le lire ensemble, psaume 82. Vous savez, hein, ceci c'est l'épée de l'esprit, hein, qui est la parole de Dieu. Donc si vous voulez combattre, il faut avoir votre arme. Donc je vous invite à lire le psaume 82. Psaume d'Asaph. Dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu des dieux. Il rend la justice. Ah, jusque à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous les parties des méchants? Défendez le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable. Délivrez-le de la main du méchant. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres. Tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme des hommes. Vous serez déchus comme les chefs des nations. Ô Dieu, lève-toi pour juger le monde, car tu as pour possession toutes les nations. Quand on lit tout le psaume, on se rend compte que cette phrase « Vous êtes des dieux » est totalement ironique. Ils se prennent pour des dieux. Ces personnes qui doivent juger au nom de Dieu, puisque les autorités humaines, d'une façon ou d'une autre, représentent l'autorité de Dieu, mais qui le font tellement mal, qui défendent les injustes, qui prennent le parti des méchants, qui ne comprennent rien, qui ne savent rien. Dieu leur dira, vous êtes des dieux, oui, mais vous périrez. Vous périrez parce que vous êtes des hommes. Donc je ne pense pas qu'on puisse se servir de ce psaume pour dire que nous sommes divinisés ou divins, mais pour dire simplement que si nous nous prenons pour des dieux, Dieu, le vrai, aura vite fait de nous rappeler que nous n'en sommes pas. Donc, au fait, j'avais prévu un transparent. C'est dommage, je ne peux pas le mettre. Surtout que Laure est là et qu'elle aime bien qu'il y ait des transparents.
Ah, il n'est pas très propre parce que j'essaie d'en recycler. Hein. Non, mais c'est une volonté d'écologie. Hein. Ah, j'ai pensé que vous supporteriez un petit peu de gris pour le plaisir de savoir que je n'ai pas dépensé un contrat.
Alors, nous en sommes juste sur la pliure. Donc nous ne sommes pas des dieux, voilà. Mais dans l'avenir, est-ce que nous ne serons pas divinisés? Parce qu'il y a ce texte que nous avons lu. Est-ce que dans l'éternité, nous ne deviendrons pas divins à notre tour? Et ce texte qui nous disait, 2 Pierre 1,4, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Est-ce que cela signifie que nous deviendrons Dieu à notre tour? Samy, il a déjà son idée, il me dit non. Et tu as raison, Samy.
Participons.
Oui.
Participons,
alors, je pense que tu as raison, Samy. Simplement, il y a des personnes qui ont pris ce texte et qui ont dit quand même... Eh bien, ça veut dire que nous serons divinisés. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, puisque saint Irénée l'avait dit. Alors, deux choses à dire. Il faut lire la suite. Comment est-ce que nous deviendrons participants à la nature divine? Je vous rappelle le texte que nous lisions, et qui disait « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ». C'est donc en faisant des efforts pour être conformes à ce que Dieu attend de nous que nous serons participants de la nature divine. Et puis la deuxième réponse, c'est qu'est-ce que c'est que ce mot « participant » ? Eh bien, ce mot en grec, c'est « koinonoi », qui est un participe présent d'un verbe. Et dans la même famille, il y a un mot que vous connaissez bien qui est koinonia. Hein? Vous connaissez koinonia? Ça veut dire communion. Ça veut dire associé. Ça veut dire, en grec hors de la Bible, ça veut dire collègue de travail. Et ça ne veut pas dire donc que nous serons devenus Dieu, mais simplement que nous serons en communion avec Dieu. C'est ce que les nouvelles traductions de la Bible, là je vous ai lu dans une traduction un peu ancienne, hein, traduction seconde, mais les nouvelles traductions de la Bible n'utilisent pas ce terme participant, qui effectivement pouvait prêter à confusion, mais utilisent une traduction beaucoup plus conforme à ce que a voulu dire Pierre, qui est simplement... que nous serons en communion avec Dieu si nous nous éloignons de la pourriture morale qui est dans le monde. Et on comprend bien tout ce que veut dire ce texte. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour que vous vous éloigniez de la pourriture morale, alors faites vos efforts pour le faire. C'est ce que dit ce texte. Alors vous serez en communion avec Dieu. Vous vous rappelez ce Dieu qui disait, c'était le souhait de ce Dieu à son peuple, « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Et j'ai trouvé dans Lévitique un très très beau passage, je vous le recommande. Lévitique 20, versets 7 et 8. « Vous vous rendrez saints et vous le resterez, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes ordonnances et vous obéirez. » Et la fin est la plus belle de toutes. Je suis l'Éternel qui vous rend saint. On retrouve exactement la même chose que dans que ce qu'a dit Pierre. Pierre a dit, Dieu vous donne tout. Eh bien, puisque Dieu vous donne tout, faites tous vos efforts. Eh bien, le Lévitique avait dit exactement la même chose, simplement il le dit dans le sens inverse. Vous vous rendrez saint, faites vos efforts. Et à la fin du texte, c'est moi qui vous rends saint. C'est une collaboration de Dieu qui nous donne les forces et de nous qui les prenons pour être sanctifiés. Donc, pas question pour nous dans ce passage de devenir Dieu, mais bien d'être en communion avec Dieu. Donc, je vous invite à être très réticent devant ce mot de divinisation qui est employé... pas tellement dans l'Église catholique, mais surtout chez les orthodoxes d'Orient, l'Église orthodoxe, où ce terme de divinisation est très employé et certainement la source de beaucoup de confusion. Jamais, jamais la Bible ne nous donne l'espoir que notre nature de créature puisse se changer en une nature divine. Seul Jésus-Christ possède deux natures. Il est Dieu et homme, mais c'est justement l'exception. Je vous rappelle la première épître à Timothée, chapitre 2, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres passages? Nous avons creusé un peu de Pierre 1,4. Est-ce qu'il y a d'autres passages? Eh bien, je vous invite à lire le l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3. Voyez quel amour nous a témoigné, Dieu, le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. En gros, nous sommes enfants de Dieu, mais ça ne se voit pas. Enfin, ce n'est pas flagrant vu de l'extérieur. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point de péché en lui. Dans notre état glorieux, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est, dit ce passage. Tout le problème est de savoir qui est le « lui » dans ce passage. Si on pense que « lui » désigne Dieu, hein, nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous serons semblables à lui. Si on pense que « lui » veut dire Dieu, on peut penser que nous deviendrons semblables à Dieu. Mais si nous lisons bien le quiconque dont il est question ici, quiconque se purifie comme lui-même est pur, et un peu plus loin, Jésus apparu pour ôter les péchés, il est donc bien question de Jésus glorifié dans le ciel. C'est à lui que nous serons faits semblables dans sa parfaite humanité, en tant qu'homme parfait, non pas en tant que Dieu. C'est déjà une promesse tellement merveilleuse. Lorsque nous rencontrerons notre Seigneur, homme glorifié, parfait, merveilleux, non seulement nous le verrons tel qu'il est, mais nous serons faits semblables à lui. Et Paul l'explique aussi à sa façon. Vous voyez, je les mets un peu tous à contribution. On a écouté Pierre, on a écouté le Lévitique, on a écouté Jean, maintenant on va écouter Paul. Paul l'explique à sa façon, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 15. Quand on dit 1 Corinthiens 15, bien sûr, tout le monde dit « Ah, il va nous parler de résurrection ». Tout à fait. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 47. Il est question du contraste entre les deux hommes, les deux sortes d'humanité. L'humanité en Adam, l'humanité terrestre, et l'humanité en Christ, l'humanité qui vient du ciel. Et donc Paul explique aux Corinthiens, en gros, son propos, c'est de dire à la résurrection, vous n'imaginez pas que vous allez ressusciter tel que vous avez été sur terre. Que vous êtes, si vous étiez boiteux sur terre, que vous serez boiteux à la résurrection. Que si vous étiez diabétique sur terre, vous serez diabétique à la résurrection. Que si vous étiez colérique sur terre, vous serez colérique à la résurrection. Non! La résurrection, ce n'est pas refaire la même chose. C'est faire quelque chose d'autre, de glorieux, de merveilleux. Et c'est ce qu'il explique ici, dans cet épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Je me suis posé la question l'autre jour de savoir si j'aurais des cheveux à la résurrection. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, l'image d'Adam, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel, Jésus-Christ. Nous porterons l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Dieu nous donne la même explication que Jean, avec d'autres mots. Jean avait dit « nous serons faits semblables à lui ». Paul nous dit « nous porterons son image en tant qu'homme ». Et il est bien question de l'homme, il n'est pas du tout question d'un Dieu, il est bien question de l'homme qui appartient au ciel. Nous porterons l'image du céleste, c'est bien son image d'homme glorieux que nous obtiendrons. Nous serons donc changés à sa ressemblance glorieuse. Alors, vous me direz, Jean-Pierre, tu es gentil, tu nous parles de Saint-Irénée, c'est de l'histoire ancienne, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est mort. En quoi ça nous concerne maintenant? Donc, je vous propose une conclusion. Et on va essayer d'être pratique. Conclusion, non, nous ne deviendrons pas Dieu. Si vous aviez quelques illusions, je suis désolé de vous les retirer. La Bible est formelle à cet égard, la créature et le créateur demeureront deux entités bien séparées. Seul Jésus est porteur à la fois d'une nature humaine et d'une nature divine, car Dieu l'a voulu ainsi. Deuxième point. Par contre, nous deviendrons des hommes et des femmes parfaits. Lorsque nous serons ressuscités en sa présence, nous serons parfaits physiquement. Vous me verrez enfin beau. Annie, elle me voit beau déjà, mais les autres aussi. Sans maladie, sans défaut, sans douleur, sans affaiblissement, parfait moralement aussi, sans péché, sans partage dans notre cœur, à 100% pour notre Dieu. Et ainsi, nous pourrons goûter parfaitement la communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, ce que Pierre appelait dans cette traduction un peu malheureuse, participer à la nature divine, être en communion. Et troisième point, plus pratique pour l'instant, pour maintenant, c'est que nous pouvons dès maintenant goûter, en partie, mais la communion avec la divinité, à condition de rechercher la sanctification. Devenir de plus en plus ressemblant à Jésus-Christ. C'est ce que Jean a dit, quiconque a cette espérance en lui, cette espérance future, quiconque a cette espérance en lui se purifie maintenant, comme Jésus est pur. Et vous vous souvenez ce passage de l'Épître aux Hébreux dont Cathy nous avait parlé il y a quelque temps? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors Cathy nous avait fait remarquer, j'avais beaucoup apprécié sa remarque, il n'est pas marqué « devenez parfaitement saint, sinon vous ne verrez pas le Seigneur ». Ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas d'être saint, mais c'est de chercher à l'être, de travailler, d'avancer dans ce sens-là. Alors comment faire? Nous avons vu que Pierre nous avait dit que Dieu nous donnait par sa divine puissance tout ce qu'il fallait. et que puisqu'il nous donnait tout ce qu'il fallait, nous devons faire tous nos efforts. Et vous vous souvenez ce qu'il fallait rechercher ? La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. Mais comment faire pour obtenir ça? Et le premier conseil qu'il nous donne, fuyez. Fuyez la corruption qui existe dans le monde. C'est aussi le conseil que Paul va donner à Timothée. Fuis les tentations de la jeunesse, lui dira-t-il. Est-ce que lorsque nous savons que quelque chose peut faire du mal à notre foi, à notre communion avec le Seigneur, est-ce que quand nous le savons d'avance, un lieu où nous allons, un spectacle où nous allons, une émission de télé que nous regardons, un livre que nous lisons, des gens que nous fréquentons, est-ce que quand nous savons d'avance, est-ce que nous avons la sagesse de fuir et de dire par avance non, je ne veux pas me mettre dans cette situation-là, ça fera du mal à ma communion avec le Seigneur. Fuyons. Parfois, je ne suis pas très fort en sciences militaires, hein, pour le peu que j'en ai fait, mais je sais qu'il peut être plus sage, lorsqu'on a un ennemi redoutable, de fuir que d'engager le combat. Et puis, deuxième conseil, faites tous vos efforts. On en a déjà un peu parlé. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe tout rôti. Nous sommes justifiés, déclarés justes par le Seigneur. Ça, nous n'avons pas d'effort à faire, sinon de lui dire « Oui, Seigneur, merci d'avoir porté mes péchés ». Mais la sanctification, c'est autre chose. Faites tous vos efforts. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire pour te plaire ? Qu'est-ce que dans la liste que nous avons vue, la foi, la connaissance, la maîtrise de soi, dans quel domaine est-ce que je peux progresser ? Faites tous vos efforts. Et nous allons lire la suite de ce que nous avons lu au début, deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 8. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance, la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne les possède pas a la vie si courte qu'il a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Vous savez que si vous êtes là ce matin, c'est qu'à un moment, Dieu a fait le choix de vous. Il nous a choisis. Je ne suis pas en train d'essayer de vous donner des leçons, hein, je m'inclus tout à fait dans ce que je suis en train de dire. Il nous a choisis. Efforcez-vous de prendre au sérieux l'appel de Dieu et le choix qu'il a fait de vous. En faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Et c'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Efforcez-vous, efforçons-nous. Et sur ce chemin-là, si nous faisons les efforts pour cela, nous pouvons compter sur Dieu lui-même pour nous aider. Nous pouvons compter sur lui puisque nous l'avons vu dans la deuxième épître de Pierre, nous l'avons vu dans le livre du Lévitique. Je suis l'Éternel qui te rend saint. Nous pouvons compter sur sa puissance pour nous aider dans cet effort-là. Et puis, nous pouvons aussi compter sur Dieu par un don qu'il nous a fait et qui s'appelle l'Église. Je vous lis ce que Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4. C'est lui, Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Même déjà sur terre, nous pouvons être semblables à lui. Merci de votre attention.